un enseignement tout à fait important par rapport au sujet que l'on a. Vous voyez bien qu'on va bien vous voir avec la séance de ce matin, le pétrole et qui tire derrière les autres énergies, c'est pas la peine de rentrer dans le détail de l'ensemble des filières. Je vais venir maintenant sur le climat. Ces deux sujets ont comme particularité de nous programmer un énorme changement dans le demi-siècle qui vient. Et quel est le débat qui s'est instauré et impulsé avec une certaine tonicité de la part de certains d'entre vous, c'est comment on fait le virage et dans quel ordre on prend les choses. Alors certains disent, par exemple, là, le débat sur Seine-Nord ou sur l'autoroute ferroviaire, ça coûte cher, est-ce que c'était intelligent de commencer par ça? La question est la bonne, et elle est malheureusement plus difficile encore que ça. C'est-à-dire que vous êtes dans une société qui, en ce moment, a énormément désinvesti dans la prospective, énormément désinvesti dans ce qui fut, après-guerre, notamment une spécialité française qui était la planification. On a un virage à faire, et nous n'avons pas le débat dans notre pays et les institutions dans notre pays pour placer les choses que l'on doit faire par rapport à ce virage. Donc vous allez inévitablement avoir dans les décennies qui viennent un retour de ce type de débat. Parce que, comme il a été dit, on peut avoir les uns et les autres des avis différents sur le sujet, mais la question qui était posée était la bonne. Est-ce qu'il faut commencer par telle et telle infrastructure qui est chère, plutôt que de faire telle et telle chose qui aura été plus rapide à réaliser et moins chère en investissement? Donc la question du classement des priorités va être une question tout à fait déterminante, bien évidemment, dans le futur. Alors, je vais maintenant vous faire ma présentation. Alors, on va suivre la même règle qu'avec Jean-Luc, parce que c'est la manière la plus agréable de gérer ce genre de choses. Donc, vous m'interrompez quand vous voulez. De toute façon, on a deux jours ensemble, donc on s'en sortira sans aucune difficulté. Alors, je vais vous faire une petite présentation sur la question du changement climatique. Je ne vais pas tout vous dire sur le changement climatique, et je dirais heureusement. Je vais me contenter, je dirais, de l'essentiel, et notamment, justement, des questions qui vont être du côté de la gouvernance, qui vont être du côté du rapport au temps, et qui vont être du côté de comment notre société peut gérer un problème de cette nature-là. Alors, la cause du problème, elle est simple, et elle est connue depuis très longtemps. Ça date de 1827, hein, Fourier, on est au début de la chimie, de la physique moderne. Avant les gaz, on appelait ça des humeurs. Comprendre la composition chimique des gaz, on fait l'analyse de comment les gaz se comportent d'un point de vue physique, et puis Fourier en 1827 s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de gaz qui se comportent comme le vitrage d'une serre ou d'une véranda, sujet dont vous avez chacun l'expérience physique. Vous êtes dans une véranda, le soleil cogne, pénètre bien évidemment le rayonnement solaire à l'intérieur de la pièce s'échauffe. Et il fait bien évidemment plus chaud dans une véranda que dans une autre pièce, pour une raison très simple, c'est que le rayonnement de chaleur, qui n'est pas visible, lui, qui est dans l'infrarouge, ne passe pas le vitrage au retour. Le vitrage laisse passer à l'aller, laisse pas passer au retour, et Fourier s'aperçoit que le gaz carbonique, la vapeur d'eau, le méthane ont exactement la même caractéristique, et donc en 1827, il appelle ça effet de serre. Cette propriété d'un certain nombre de gaz a empêché les choses de passer. Donc vous avez l'illustration à l'écran avec la chaleur rouge de la Terre qui repasse pas l'atmosphère au retour. Alors, cette affaire-là va intéresser les chimistes et les physiciens, mais pas grand monde. Et on va vite comprendre qu'à partir du moment où on va aller chercher du charbon dans les entrailles de la Terre, qu'on va brûler ce charbon, ben, on va émettre du CO2, que ce CO2, on va le balancer dans l'atmosphère, et qu'à travers ça, on va changer la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et vous avez des textes du 19e siècle qui disent, bah, écoutez, si on met du CO2 dans l'atmosphère, on va réchauffer la planète. Et vous avez en 1896 un prix Nobel de chimie, Arrhenius, qui fait le calcul. Il rêve du 20e siècle. Toute l'humanité va fonctionner au charbon. Et si toute l'humanité se met à fonctionner au charbon, on aura combien de degrés de réchauffement? Et en fonction de ces hypothèses, bon, très, très toniques, hein, ils ne s'étaient pas plantés. Bon. Et cette question va rester en devers de la main pour une raison très simple. C'est que si on connaît les causes, on ne sait pas mesurer les conséquences. On ne sait pas, on ne connaît pas quelle est la température moyenne terrestre. Et on ne sait pas comment elle évolue. Alors, bien sûr, on sait mettre un thermomètre ici, mais on ne sait pas faire la moyenne de tous les thermomètres s'ils existaient sur chacun des points de l'océan, sur les déserts, sur l'Antarctique. Donc, on ne sait pas calculer la moyenne terrestre. Et cette connaissance de la température moyenne terrestre, elle va venir au début des années 60. Vous voyez, donc il y a eu 140 ans où on a eu un problème et on ne savait pas comment ça évoluait. Et début des années 60, on envoie des satellites dans l'espace. Et avec ces satellites dans l'espace, bon, vous êtes abreuvés des images météo, hein, avec ces satellites dans l'espace, on sait mesurer, bien sûr, le rayonnement infrarouge de la Terre. On sait donc, à ce moment-là, sur tout point de la Terre, quelle température il fait. On sait faire la moyenne. Ça y est, on sait suivre le climat terrestre. Bon. Le problème, c'est que les années 60, c'est hier matin. Et si on veut regarder ça par rapport à l'évolution et de l'ensemble de la société industrielle et des variations naturelles du climat terrestre, ben on a quasiment rien comme données statistiques, on n'a que quelques années de mesure. Et les choses vont changer de tout au tout en 1985. Et c'est 1985, au sens où on l'entend aujourd'hui, la date de naissance de cette affaire de changement climatique. Vous avez une équipe scientifique qui va au pôle Sud, qui va utiliser les méthodes pétrolières de Jean-Luc à faire un forage dans la glace, va trouver un endroit où il y a un kilomètre d'épaisseur de glace, et avec des glaces les plus profondes qui ont 150 000 ans. Et on va analyser les bulles d'air qui avaient été emprisonnées dans ces neiges quand elles s'étaient formées. Et d'un seul coup, on va avoir une chronique de 150 000 ans de composition de l'atmosphère. Et donc, on va regarder, on va analyser ça. Et donc, je vais vous montrer le graphique derrière qui en est sorti. Bien évidemment, comme vous pouvez le deviner, une fois qu'ils ont eu la preuve, les scientifiques à ce moment-là, ils ont un peu pris feu. Et ils se sont mis à tirer les sonnettes un peu partout. Et notez l'extraordinaire rapidité avec lequel le sujet a été traité après 1985. Dans les déprimes par lesquelles vous pourrez passer entre ce matin et demain soir, il y a là un événement tout à fait considérable que je vous propose de bien goûter. À savoir la rapidité, la qualité de la réponse politique mondiale. Entre le diagnostic scientifique et la signature d'un traité international par l'ensemble des pays, reconnaissant le changement climatique et donc demandant prendre le sujet au sérieux, il ne s'est passé que 7 ans. 7 ans entre un diagnostic scientifique et un traité international, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Alors, remarque juste aussitôt derrière, après avoir signé, tout le monde va s'endormir. Donc il va falloir une piqûre de rappel. Cette piqûre de rappel, c'est le protocole de Kyoto, donc après la convention de Rio de 92, protocole de Kyoto de 97. Alors là... Là, on sévérise les affaires, hein, puisque les gens reconnaissent le problème, mais ils ne bougent pas. Bon, donc là, il faut dire, vous êtes obligé de bouger. Bon, donc on va dire aux États, vous devez, sous contrainte juridique, en tout cas pour les pays industrialisés, vous devez réduire vos émissions. Et donc on va distribuer des obligations de réduction d'émissions à l'ensemble des pays industrialisés. Et donc avec une date cible dans laquelle on est maintenant tout proche, qui est 2012. Le protocole de Kyoto est entré en vigueur sans les États-Unis. Et puis là, maintenant, on est en train de préparer le troisième traité, et vous en entendrez énormément parler sur la fin de l'année, puisque l'équivalent de Rio ou de Kyoto, ben, cette année, c'est Copenhague. C'est donc début décembre, et là, on est en train d'essayer de préparer le nouveau traité, et je vais vous dire à quel point l'affaire est difficile. Alors, vous avez là un graphique qui vous montre l'évolution de la température depuis 1860, telle qu'elle a été reconstituée. Et puis vous avez donc sur le côté gauche le hit parade des années les plus chaudes. Vous voyez que vous avez la quasi-totalité des années les plus chaudes, donc depuis un siècle et demi, dans la période qui commence à la fin des années 90 et les années actuelles. On est en train de battre record sur record. Et les affaires, donc là, sont, je dirais, clairement et nettement établies. Alors, on a eu un réchauffement qui s'est énormément accéléré depuis 1980, ça posait problème, parce que pourquoi, alors qu'on commençait à utiliser du charbon, du pétrole et du gaz depuis le milieu du 19e siècle, pourquoi d'un seul coup cet emballement dans les 20 dernières années? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'auto-intoxication là aussi, une espèce de focalisation qui fait que on voit les choses, on déforme les choses, je dirais, par notre regard, l'acuité de notre regard. En fait, on a compris ce qui s'est passé. La réalité, elle est très simple. Vous savez, on s'est rendu compte de la gravité de la pollution atmosphérique au début des années 70. C'était d'ailleurs la conférence de Stockholm, 1972. C'est là où ont été constitués la plupart des ministères de l'environnement. Et donc, en tout cas, dans les pays industrialisés, compte tenu des impacts sanitaires de la pollution de l'air, on va mettre en place toute une série de dispositifs pour éviter cette pollution de l'air. On va mettre des filtres sur les cheminées d'usines. On va aller vers des combustibles moins polluants, on va mettre des pots catalytiques aux voitures, et donc on va réduire la pollution de l'air. Or, et notamment les émissions de poussière. Or, ce qu'on a compris il y a à peu près une dizaine d'années, c'est que la pollution de l'air avait une caractéristique, c'est qu'elle refroidissait le climat. Pourquoi ? Pour raison très simple, si vous avez un nuage de poussière qui flotte sur, par exemple, l'Europe, bah, le rayonnement solaire pénètre moins. Et donc ça réfléchit une partie du rayonnement solaire. Et donc la pollution de l'air avait un effet refroidissant. Quand, dans les années 70, on s'est mis à lutter contre la pollution de l'air, le temps qu'on mette tout ça en place, l'essentiel des dispositifs de réduction de pollution, en tout cas sur l'hémisphère nord, Amérique du Nord, Europe, plus récemment sur l'Europe de l'Est, et puis maintenant les Chinois sont obligés de s'y mettre aussi, à partir du moment où on a mis en place les dispositifs de réduction de la pollution, on a démasqué le changement climatique qui était en partie occulté par cette pollution de l'air massive. Et donc, on est revenu, là maintenant, dans la trajectoire dans laquelle on aurait été si on n'avait pas eu ce problème de pollution de l'air. Alors, voilà la courbe de 85. Vous êtes, sur la partie droite du graphique, 1985, vous avez les 150 000 ans qui précèdent, vous avez deux courbes, une courbe rouge qui est la courbe de température, et puis l'autre courbe, c'est la teneur, la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère. Alors, vous voyez que la courbe rouge est là, une bosse il y a 130 000 ans, une bosse actuellement, et puis un trou entre les deux, c'est la succession d'air glaciaire et d'air interglaciaire. Alors pourquoi y a-t-il une succession d'air glaciaire et d'air... Alors, vous aurez mon PowerPoint et vous pourrez vous frimer devant vos familles avec. Hein. Bon, donc, vous avez... Vous avez, dans la vie de la planète, cette succession d'aires glaciaires et d'aires interglaciaires, alors pour une raison très simple, vous avez repéré que vous êtes dans un système solaire où il y a quelques grosses planètes. Donc quand la Terre est entre le Soleil et Jupiter, Jupiter nous tire un petit peu. Donc on s'éloigne dans notre orbite du Soleil. Quand au contraire on est dans une configuration où on n'est pas attiré par les grosses planètes du système, à ce moment-là on se rapproche un peu plus du Soleil. Et donc vous avez, avec une régularité d'horlogerie, vous avez cette succession d'aires glaciaires et d'aires interglaciaires en fonction des temps de rotation de chacune des planètes autour du Soleil. Bon. Donc l'homme n'y est pour rien, rassurez-vous, et on a ça. Alors, s'il y en a qui ont ici des responsabilités, notamment des élus, je tiens tout de suite à vous rassurer, parce que vous voyez que la période interglaciaire chaude précédente avait duré 12 000 ans, et on est sorti de la glacière il y a 10 000 ans, donc on pourrait être à la fin d'une période chaude, mais on est dans une configuration, justement à cause de ce balai des planètes, qui fait que le prochain ère glaciaire est programmé pour dans 65 000 ans, donc les élus peuvent engêner quelques mandats en toute tranquillité. Bon, donc vous avez ce creux-là donc de l'ère glaciaire, et puis ce que comprennent les scientifiques à travers leurs analyses en 85, c'est que la courbe de CO2 suit en gros une trajectoire qui est assez proche de l'évolution de la température. Alors ça les interroge, et il a bien fallu trouver l'explication de ça. L'explication peut se dire dans des termes très simples, et vous pouvez faire le TP chez vous demain matin, vous mettez une boisson gazeuse au frigo et vous la sortez du frigo. Et vous verrez que quand le liquide va se réchauffer, il va dégager des bulles. Le gaz carbonique se dissout mieux dans l'eau froide que dans l'eau tiède. Et donc, quand on est dans une période glaciaire, l'océan pompe du gaz carbonique dans l'atmosphère. Il fait des choses que vous adorez, par exemple des huîtres. Bon, donc il pompe ce gaz carbonique, donc il en reste moins dans l'atmosphère. S'il en reste moins dans l'atmosphère, ça amplifie le refroidissement. À l'inverse, quand on est dans une période chaude, l'océan il peine à pomper ce gaz carbonique. D'ailleurs, l'activité biologique de la planète est plus vive. Hein. Et donc, il reste davantage de gaz carbonique dans l'atmosphère. Et à ce moment-là, donc, ça amplifie le réchauffement. Et donc, on comprend en 1985 cette relation entre l'évolution de la température et les effets amplificateurs du gaz carbonique par rapport à ces variations de température. Alors, vous avez sur la droite du graphique une perche qui grimpe, c'est la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère depuis l'amplification de l'activité humaine. D'abord c'est de la déforestation, et ensuite c'est l'utilisation du charbon et des combustibles fossiles. Alors vous avez aujourd'hui c'est 1985. Alors, si je voulais vous dire aujourd'hui le vrai, celui de maintenant, alors maintenant on est dans le titre. Hein. On est dans le titre. Vous avez l'échelle, là, sur la gauche, de la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère. Quand on est dans une période chaude, on est autour de 270 ppm, donc partie par million de ce gaz carbonique dans l'atmosphère. On était un peu plus de 340 en 86, et cette année, c'est 384. Donc maintenant, on est dans le titre. Alors, vous voyez que la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère liée à l'activité humaine est supérieure aux écarts qui existaient entre période glaciaire et période interglaciaire. Donc, juste en 85, les scientifiques se sont donc posé la question suivante. Cette quantité additionnelle de gaz carbonique, ça va avoir quoi comme effet sur le climat? La question qu'on cherchait... c'était la question qu'on se posait depuis 1827, et là enfin, on a la capacité de calcul. Alors, les scientifiques vont donner deux chiffres, et depuis 1990, date du premier rapport des scientifiques sur le climat, on reste sur les mêmes chiffres. La compréhension se précise, mais les chiffres restent les mêmes. Deux chiffres, un chiffre bas, un chiffre haut. Le chiffre bas, qui est donc le chiffre le plus favorable. La planète a la délicatesse de réagir lentement et l'humanité a la sagesse de faire tout ce qu'il faut pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, un scénario optimiste. Et donc on nous dit 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle, en sachant qu'on a déjà eu 1 degré de réchauffement au XXe siècle. Et puis, l'hypothèse élevée, la planète réagit vivement, c'est plutôt ça qu'on constate en ce moment, et l'humanité n'a pas la sagesse de faire le nécessaire. On continue sur la trajectoire, et les chiffres, encore une fois, c'est des chiffres pour l'année 2100, pour 2100, on serait sur 6 degrés de réchauffement. Donc on va être entre 1,5 et 6. C'est ça le diagnostic qui est fait. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ces chiffres-là ne sont absolument pas interprétables. Entre un matin et un après-midi, vous avez l'habitude d'avoir 10 degrés d'écart. Entre le jour le plus froid de l'hiver et le plus chaud de l'été, vous avez 60 degrés d'écart en France. Donc c'est quoi 1,5 degré? C'est quoi 6 degrés? Alors, le graphique vous donne la réponse, là encore. C'est l'échelle de droite. Vous avez un zéro qui est positionné pour le niveau de température de 1985. Et puis ensuite, vous pouvez mesurer les écarts par rapport à cette valeur de 1985. Vous voyez, quand on était, je dirais, dans l'ère glaciaire, hein, vous aviez 6 degrés de moins en moyenne annuelle qu'aujourd'hui. La température moyenne de la planète, c'est 15 degrés. L'ère glaciaire, c'était 9 degrés de température moyenne. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, je vais rappeler ce que c'est l'ère glaciaire. C'est la banquise sur une ligne Londres-Amsterdam-Munich. Il y a 1 km de glace sur les îles britanniques. L'océan mondial est 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Et les gens de RTE, puisque c'est eux qui nous invitent, ils étaient en train de s'activer à faire je ne sais quoi dans une toundra en compagnie de mammouths les deux. Bon, c'est ça l'ère glaciaire. Bon, on était dans une toundra. Et ça, c'est 6 degrés de moins. Donc, vous voyez à quel point cette affaire est très sensible sur des valeurs moyennes. Si vous voulez, le climat, il y a d'énormes écarts, la météo quotidienne, il y a d'énormes écarts d'amplitude en valeur extrême, mais c'est très très sensible aux moyennes, et un déplacement de la moyenne a des effets absolument considérables sur les conditions de vie de la planète. Alors, une fois que vous avez compris ce graphique-là, vous avez tout compris sur le sujet. Là, alors maintenant, on a retrouvé un autre endroit où il y a 3,5 km de glace. Donc, on a refait le même jeu. Et là, vous avez la succession des aires glaciaires et des aires interglaciaires. Et puis là, vous avez aussi les mesures de méthane pour compliquer le jeu. Maintenant, on a une photo avec 7 succession d'air glaciaire et d'air interglaciaire, où on a été capable d'analyser la composition de l'air depuis maintenant 700 000 ans. Vous avez là, ici, sur la partie droite du graphique avec une étoile, les concentrations auxquelles maintenant on est arrivé. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'ensemble des concentrations historiques depuis 700 000 ans. Voilà. Alors, l'autre point important à comprendre, c'est que si la planète est plus chaude, il va y avoir davantage d'eau qui va s'évaporer des océans, et notamment de la partie la plus chaude, qui est donc la partie autour de l'équateur. Bon. Et vous avez donc immédiatement compris que cette flotte, elle est tombée sur quelqu'un. Et vous voyez la répartition de cette température, de cette pluviométrie. Vous voyez que les gens de l'équateur vont être douchés, mais là, ils vont s'en prendre des averses, là, de façon extrême. Vous avez les latitudes élevées, près des pôles, qui vont être davantage mouillées. Il va encore plus flotter sur les Anglais. Et vous avez, alors, à l'inverse, les deux tropiques, tropique du Cancer, tropique du Capricorne, plus secs. Et nettement plus sec. Donc les bandes jaunes et rouges, les zones jaunes et rouges. Alors ça, c'est absolument dramatique. Pourquoi ? Alors pourquoi ce processus-là ? Si il y a plus d'énergie dans l'atmosphère, il y a plus de vent. S'il y a plus de vent, les alizés qui sont chargés de cet air avec une forte humidité venant de cette évaporation, les alizés vont pousser les masses nuageuses vers des latitudes plus élevées. Et donc, au lieu de mouiller, par exemple, la côte marocaine, eh bien, les alizés vont aller remettre la flotte chez les Anglais. Et le problème que l'on a, et le dernier rapport des scientifiques de 2007 a beaucoup creusé cette question-là, c'est qu'on a un énorme problème d'effondrement des productions agricoles sur les deux zones tropicales. Alors, vous voyez que ça va toucher le Mexique, toute la zone méditerranéenne, bien évidemment le Sahel, le Moyen-Orient, l'Inde, et puis dans l'hémisphère sud, l'Australie, donc a eu une grosse sécheresse il y a 2 ans, le sud de l'Afrique et le sud de l'Amérique latine. Et les analyses qui ont été faites là-dessus sont extrêmement inquiétantes. Vous savez qu'il va falloir doubler la production alimentaire mondiale d'ici 2060. Hein. On est 9 milliards, il y en a quand même une grande partie qui mange mal, qui est dans des situations de famine, et l'autre partie mange mal, avec une alimentation peu équilibrée, etc. Donc quand les gens augmentent leur niveau de vie, eh bien ils diversifient leur alimentation, ce qui est le cas des Chinois par exemple en ce moment, et comme on va avoir la population mondiale qui va augmenter de moitié, on ne va pas être loin d'un doublement des besoins alimentaires. Bon. Et on n'a pas de terre, on n'a plus vraiment de terre massivement en réserve. Notamment parce qu'il faut protéger la forêt équatoriale, l'Amazonie, etc. Bon. Et donc, si on a 2 fois plus de besoins alimentaires et qu'on a un effondrement de la production agricole dans ces zones-là, ben on est mal.